dans les coulisses de Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Pendant 3 semaines, nous accompagnons le manager de l'équipe, Ralf Denk, au cœur de la plus grande et la plus titrée des équipes cyclistes allemandes sur la Grande Boucle. Vous avez des questions pour Ralf Denk? Envoyez-les à tobias.ruffu au fibmedia.de et maintenant, profitez bien de ce nouvel épisode.
Dramatique, dur et spectaculaire, le mythe de l'Alpe d'Huez, première partie, a tenu toutes ses promesses. Avant les 20 et un virage légendaire, un grand groupe d'échappés s'est détaché, prenant même jusqu'à 4 minutes et demie d'avance. Mais Tadej Pogacar prend les commandes au pied du col, rattrape les échappés un par un et s'offre la victoire. Dans la lutte pour la deuxième place, Remco Evenepoel creuse légèrement l'écart. Comme toujours, nous passons la main à notre envoyé spécial. Il est en haut de l'Alpe d'Huez. Bonjour Ralf. Bonjour et salutations depuis l'Alpe de Suez jusqu'à Rosenheim. Oui Ralf, nous analysons tout cela comme toujours et nous devons commencer relativement tôt cette fois, car un grand groupe s'est formé d'emblée qui, si l'on regarde bien à la fin, n'était pas loin de réussir son coup. Vous aviez un homme devant avec Cataneo, il semblait y avoir beaucoup d'entente, ils étaient par moments vraiment loin et j'ai entendu dire par les coureurs que c'était de ce fait vraiment très très rapide.
À quel point cela a-t-il rendu les choses difficiles pour vous dès le début avec une telle intensité à l'avant? Oui, c'était en fait une assez bonne situation pour nous. Nous avions Mattia Cataneo devant, il n'a pas pris de relais ou très peu. C'était pratiquement une montée dès le départ à Gap.
Ce n'était pas une mise en jambe. On a attaqué la montée directement. Ensuite, il y avait le col du Noyer, le col de deuxième catégorie aujourd'hui, puis une longue descente dans la vallée avant de filer vers l'Alpe d'Huez. Une bonne situation pour nous. L'équipe UAE menait le train derrière. Pas, je crois, avec l'effectif complet. Ils n'étaient pas non plus dédiés à cause de maladies à leur niveau habituel, l'équipe, mais ils ont quand même, disons, au moins contrôlé l'écart. Ils ne l'ont pas réduit, mais ils l'ont contrôlé. Et quand Pogacar a attaqué au pied de la montée finale, l'avance des échappés était déjà trop faible et il a vraiment rattrapé tout le monde. Mais je n'ai pas encore le temps de monter exact de Pogacar ici. Ça n'avait plus l'air super facile pour lui non plus. Donc, chez lui, comme dans toute l'équipe, on voit bien à quel point les 3 dernières semaines ont été éprouvantes.
Oui, je peux au moins te donner une estimation. Il a battu le record de Pantani de 1995 d'environ 1 minute. Il a été très, très rapide là-haut. Chapeau, oui. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sacha Witzke a aussi remarqué, et cela m'amène à une question d'auditeur, que l'équipe UAE était un peu affaiblie et n'a pas pu suivre avec tout son effectif. Il a dit, et on l'a vu de temps en temps, que vous étiez très pressante de fond dès la première partie. Sa question est donc, pourquoi avez-vous fait ça? Also, n'aurait-il pas été plus judicieux de laisser UAE tout faire sans les aider pour peut-être mettre Del Toro en difficulté un peu plus tôt ou quelque chose comme ça?
Oui, il faut savoir que quand on roule relativement à l'avant du peloton et qu'on prend quelques relais, donc, quand on participe un peu au travail, l'équipe de tête, UAE, vous laisse devant et nous ne voulions prendre aucun risque. C'est-à-dire que si nous roulons parmi les 10 ou 12 premiers avec notre leader Remco, nous éviterons très probablement les chutes qui pourraient survenir dans le peloton car nous sommes bien placés à l'avant. C'est pour cela qu'on le fait pour des raisons stratégiques, en envoyant 1 ou 2 coureurs en tête de peloton. Mais on ne peut pas parler d'un rythme soutenu. C'est plutôt une présence pour assurer une bonne place à l'avant du peloton.
D'accord, alors commençons là où le spectacle a débuté, au pied de l'Alpe d'Huez. Il restait environ 3 minutes et demie de retard. Dès le début de l'ascension, Mattia Cataneo se laisse décrocher pour servir plus tard de point d'appui à Remco Evenepoel, je suppose. On ne l'a d'ailleurs vu que par bribes à l'arrière, car c'est là que le grand show de Pogacar a commencé. J'aimerais aussi aborder ce point. Pogacar attaque très tôt, sans doute parce qu'il savait qu'il devait partir tout de suite pour les rattraper là-haut. Était-ce une bonne chose pour vous, une attaque aussi précoce? Et vous l'avez tout simplement laissé partir sans même essayer de le suivre. Ai-je bien vu?
Oui, nous avons dit ce matin en réunion que si Pogacar attaque et que ça semble très facile, alors on essaie de suivre avec Remco. Mais maintenant, je connais aussi son temps de montée. C'est une minute plus rapide que le record phénoménal de Marco Pantani de l'année 1997, je crois. Il a tenu 30 ans dans ce record. Cela signifie aussi que c'était vraiment très rapide. Et on prend un risque en suivant ce rythme, ce que nous n'avions pas besoin de faire. Et c'est pour ça qu'on a d'abord laissé le travail à Decathlon pour qu'ils imposent le rythme. On était plutôt à l'aise d'abord avec Jay Hindley, puis avec Mattia Cattaneo qui revenait de l'avant. On est resté dans le groupe sans avoir à travailler. Et c'était en fait une très bonne situation pour nous.
Tu viens de dire que Decathlon a pris le relais. Si on a pu voir Paul Seixas devant pendant un bon moment, du moins quand le rythme a été réduit. Donc lui aussi avait encore deux équipiers qui ont pu se laisser décrocher. Mais cela n'a duré que peu de temps avant que, dans les cinq derniers kilomètres, juste avant les barrières et l'élargissement de la route, Remco Evenepoel ne dise « c'est mon moment » et ne passe devant. Il y a eu un court instant où il a semblé bloqué car des motos gênaient et l'espace était un peu trop étroit. T'as suivi ça aussi? Est-ce qu'il en avait vraiment encore sous la pédale? Ou comment t'as vu ça?
Ouais, c'était vraiment dommage. J'ai parlé avec Remco dans l'ascenseur et il a été vraiment freiné après son attaque. En fait, il a lancé deux attaques. Il attaque, creuse l'écart et ralentit par la moto avec énormément de spectateurs à droite et à gauche. Il ne pouvait donc pas dépasser la moto. Puis la moto repart, Remco accélère à nouveau et parvient quand même à maintenir ou à creuser l'écart en tête sur Del Toro et sur Paul Seixas. Mais cela lui a coûté énormément d'énergie, vient-il de dire, et c'est dommage car sinon il y aurait eu encore plus de secondes entre lui, Del Toro et Paul Seixas, qui sont les trois coureurs qui se battent durement pour le podium ici, et l'un de ces trois-là ne sera définitivement pas sur le podium. C'est pourquoi la lutte est si acharnée. C'était un peu dommage pour Remco, mais bon, on ne peut plus rien y faire maintenant.
Avec le recul, n'aurait-il pas été plus judicieux d'attaquer un peu plus tard? Car juste après, il y avait des barrières et des spectateurs qui bloquaient le passage. Il a dû attaquer deux fois. N'y a-t-il pas pensé? Ou pourquoi était-ce peut-être mieux d'attaquer là? A-t-il dit quelque chose à ce sujet?
Il n'y a pas de règlement sur le moment où les derniers kilomètres sont grillagés et Remco ne le savait pas non plus. Oui, Remco ne le savait pas. Est-ce que les barrières sont placées à 4 kilomètres de l'arrivée, comme c'est le cas aujourd'hui? Sont-elles à 3 kilomètres ou à 1 kilomètre creux de l'arrivée? Il a suivi son instinct et m'a confirmé qu'il se sentait bien à ce moment-là. C'est pourquoi il a attaqué. Mais malheureusement, il y avait trop de spectateurs et le passage était trop étroit pour qu'ils puissent passer.
Ça a quand même suffi. Je suppose donc que vous repartez de cette étape avec un très bon sentiment. Vous avez repris quelques secondes sur vos deux poursuivants, Del Toro et Seixas. Ils ne se sont pas beaucoup départagés. Est-ce que Seixas aurait dû en faire plus ou a-t-il trop donné au début et n'a-t-il pas pu suivre?
Comment as-tu vu ça? Non, alors là, l'équipe Decathlon a tout misé pour Paul Seixas.
Ils étaient capables aujourd'hui, après le départ, d'avoir deux coureurs dans le groupe de tête. C'était pratiquement des relais, ils se sont laissés décrocher. Ils ont gardé un coureur longtemps avec Paul Seixas. Ils ont donc tout fait comme il faut, mais on a aussi vu que le jeune Paul Seixas de 19 ans est un peu fatigué. Il dispute ici son premier grand tour de 3 semaines. Alors, chapeau pour sa position actuelle à la 4e place à 19 ans pour son premier grand tour de 3 semaines. C'est une performance phénoménale et il est tout à fait normal qu'il soit un peu fatigué lors de cette 19e étape. Peut-être plus tout à fait aussi frais, mais ils se sont battus comme des lions.
Seul l'un d'entre eux semble ne pas en souffrir. Il y a eu beaucoup de spéculations. Ah, l'équipe est affaiblie. Il y a peut-être un virus qui circule. Ça n'intéresse pas du tout Tadej Pogacar. Je crois qu'il tenait vraiment à inscrire son nom au palmarès légendaire de l'Alpe d'Huez aujourd'hui et il l'a fait de manière impressionnante. Es-tu d'accord avec moi?
Oui, absolument. De très grands coureurs ont gagné ici. Il y a eu des victoires surprises, mais gagner à l'Alpe d'Huez, l'inscrire à ton palmarès avant la fin de ta carrière, c'est vraiment quelque chose d'immense. Moi, en tant que directeur d'équipe, je n'ai jamais gagné ici, ni en tant que coureur, mais c'est quelque chose d'honorable. Et on a bien vu à quel point la montagne était assiégée par les fans de cyclisme. Et c'était la fête du cyclisme de l'année jusqu'ici. C'est quelque chose de très, très prestigieux.
Je dirais ceci, Jara, il manque aussi une victoire allemande à l'Alpe d'Huez. Alors peut-être que vous pourriez faire d'une pierre deux coups avec votre équipe. Ce serait peut-être quelque chose à envisager pour l'avenir.
Nous ne cachons pas que nous aurions vraiment aimé avoir Florian Lipovitz avec nous aujourd'hui. Il nous a cruellement manqué. Nous sommes en contact avec lui. Il est rentré chez lui maintenant. Il va plutôt bien, Bastia, mais il souffre avec nous et nous souffrons avec lui car il ne peut pas vivre ces étapes géniales pour lesquelles il s'était spécialement préparé dans son planning pour le dernier week-end. Je suis vraiment désolé pour lui.
Absolument. D'autant que j'ai entendu beaucoup de coureurs à l'arrivée dire à quel point c'était incroyable aujourd'hui, incroyable, fou, tellement bruyant, rien de comparable, tout sport confondu, comme l'a dit Shinday en interview. T'es aussi sur place. Comment as-tu vécu ça aujourd'hui? J'ai vu que ce matin, il y avait même des bouchons, tellement il y avait de monde en bas. On parle d'un bon demi-million de personnes. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu as quelques impressions à nous partager?
Oui, la montagne est fermée aux voitures et aux camping-cars depuis 2 jours déjà. Donc, si vous voulez garer votre camping-car au bord de la route pour passer quelques jours agréables ici, vous devez arriver 2 jours à l'avance. Sinon, c'est l'état d'urgence, la fête. J'ai vu des images et des vidéos hier. Jusque tard dans la nuit, les fans de cyclisme ont fait la fête ici. Tout se passe de manière très, très pacifique. C'est impressionnant. On peut comparer ça aux fans de football quand deux équipes s'affrontent. Ça se passe rarement sans heurte ou alors on ne peut pas les laisser ensemble sans protection policière. Ici, dans le cyclisme, c'est différent. C'est beaucoup, beaucoup plus pacifique et c'est une vraie fête. C'est unique et quiconque est un tant soit peu fan de cyclisme doit avoir vu ça en vrai parce que nous allons dans beaucoup d'endroits, nous gravissons beaucoup de montagnes, mais l'Alpe d'Huez reste l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez reste l'Alpe d'Huez et ce sera encore le cas demain.
Nous allons aborder ce sujet dans un instant. Peut-être juste une petite précision ou plutôt un message que j'ai reçu. Il y avait en tout cas des fans du podcast sur place car j'ai reçu une photo avec le logo Red Bull en gros où il était écrit « Belle salutation en retour à Rosenheim ». Je pense qu'il y avait en tout cas des gens qui suivent régulièrement le podcast, même dans cette montée finale légendaire. Les salutations sont donc transmises. C'est bon à savoir, ça me fait plaisir. Ralph, regardons demain. Là aussi, l'Alpe d'Huez reste l'Alpe d'Huez.
Nous faisons une grande boucle demain, mais avec, et ce sera encore plus dur, 3 ascensions hors catégorie avant de revenir à la même ville d'arrivée. Comment vois-tu cette étape, Rennes, comme beaucoup l'appellent, et sur quoi cela va-t-il se jouer? Oui, d'abord, un mot sur le parcours.
C'est au pied de l'Alpe d'Huez, départ, puis on monte tout de suite le col de la Croix de Fer. C'est un col hors catégorie, puis descendre dans la vallée de la Maurienne, puis monter vers le col du Télégraphe. Une courte descente du col du Télégraphe, puis vient le col du Galibier, encore 16-17 km, puis redescendre par le col du Lautaret, longue descente dans la vallée, et ensuite l'ascension finale vers l'Alpe d'Huez. La montée vers l'Alpe d'Huez par l'arrière n'est pas comparable à la route que nous avons empruntée aujourd'hui. Elle était vraiment très, très étroite. Je suis vraiment curieux de voir comment les organisateurs vont gérer ça demain, car on a vu beaucoup de camping-cars, de tentes et de voitures sur le bord de la route. Il n'y a absolument pas de place pour ça demain. Ça va être difficile. Si deux voitures se croisent, une qui monte, une qui descend, si personne n'est là. Et cette montagne est spéciale. Il y a un peu moins de dénivelé que sur la large route que nous avons montée aujourd'hui, car on tourne plus haut dans la vallée. Mais ce sera un adieu phénoménal au Tour de France à la haute montagne. Et oui, nous avons hâte d'y être. Nous sommes aussi assez optimistes pour demain, car Remco a montré une bonne forme aujourd'hui et lors de notre discussion dans l'ascenseur tout à l'heure, il ne m'a pas semblé si épuisé que ça. Nous verrons comment la course se déroule. Nous sommes dans une situation où nous ne visons pas vraiment la première place du classement général. Ce serait, je pense, un peu naïf de notre part. On a vu aujourd'hui le niveau de Pogacar, mais nous n'avons pas besoin d'attaquer en premier, car nous avons assez d'avance sur la troisième, la quatrième et la cinquième place, et nous verrons comment la course évolue dans les grands cols alpins.
Les discussions dans l'ascenseur sont encourageantes, ça nous fait plaisir. J'ai une info pour toi qui pourrait être intéressante. Tadej Pogacar a dit à l'arrivée qu'il visait la victoire à l'Alpe d'Huez aujourd'hui. Demain, il passera à l'offensive avec Del Toro pour assurer le maillot blanc et le podium, c'est ce qu'on a pu comprendre. Est-ce que ça change quelque chose pour vous si Pogacar redevient un super équipier ou ça ne change rien? Avant tout, Del Toro doit aussi suivre Pogacar et on a bien vu qu'il n'était plus très frais aujourd'hui.
Donc, pour nous, la stratégie avec
Pogacar, qu'il soit un coureur affamé de victoire ou un équipier de luxe, cela ne change rien pour nous. Nous allons faire notre propre course. Je dois d'ailleurs féliciter l'équipe. Ils sont restés relativement groupés longtemps dans la montée finale. Nous garderons donc notre propre tactique, mais nous aborderons la journée de demain avec plus de confiance.
L'avantage, c'est que vous êtes sur place. Le départ sera donné au pied de l'Alpe d'Huez. Si j'ai bien compris, vous êtes en haut, comme la plupart des équipes. Ça vous donne un peu plus de temps et de marche, n'est-ce pas?
Non, tout le week-end est un cauchemar logistique, il faut bien le dire. On est parti ce matin, 1h30 au sud. On voyait presque la mer Méditerranée. Les camions avaient rendez-vous dès 8h ce matin en bas au pied de la montagne pour monter ici sur le parcours que les coureurs emprunteront plus tard. Donc tout le week-end, aussi beau soit-il, cette fête du cyclisme pour nous les équipes, c'est un effort immense. Nous avons demain une étape extrêmement difficile. Nous voyagerons encore demain vers Paris en voiture et les coureurs en train à grande vitesse. Donc, la journée de demain sera aussi extrêmement longue et nous serons tous un peu soulagés quand nous aurons atteint Paris.
Je peux l'imaginer. En tant que fan, on s'imagine ça beaucoup plus agréable que sur place. Mais honte à toi pour ça. Merci beaucoup, Ralph, pour aujourd'hui et nous suivrons bien sûr demain ensemble la deuxième partie de l'Alpe d'Huez avec mon collègue Tobias Ruff. Je vous dis donc au revoir et je salue une dernière fois la France.
Avec grand plaisir et je vous renvoie mes salutations à Rosenheim.
C'était l'édition actuelle d'Inside Red Bull Bora Hansgrohe, le podcast d'OVB Online sur le Tour de France. Vous trouverez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et sur les sites d'OVB Media et Deepen Media. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine émission.